Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonjour à toutes et à toutes, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 11 février 2019. C'est l'hebdomadaire d'info de Radio Albitzes. Comme un lundi, ben c'est parti. Au sommaire, on commencera par entendre des bénévoles et salariés du planning familial du Tarn qui vous proposent, avec le club des sœurs optimistes, une soirée théâtre autour de lecture des monologues du vagin, ce mercredi 13 février au théâtre des Lys d'Albi. Nous entendrons ensuite un sujet en deux parties avec l'acteur principal du logement social dans le département du Tarn, Tarn Habitat. Nous rencontrerons au micro d'Arnaud, Elisabeth Claverie, sa présidente, et ensuite Moa Oxys, élue au conseil d'administration représentant des locataires. Nous fêterons la journée mondiale de la radio. Cette année, la thématique choisie par l'UNESCO, c'est Radio, Dialogue, Tolérance et Paix. Nous entendrons Michel Betz, qui a plus de 25 ans d'expérience en tant qu'experte principale du développement des médias et de la liberté de la presse, journaliste et éducatrice en journalisme. On parlera ensuite Europe avec un entretien avec Carlos Manuel Alves, maître de conférence en droit public au Centre de recherche et de documentation européenne et internationale, autour de la question « L'Europe compréhensible ou pas ?». C'est tiré d'une série d'entrevues que nous vous proposerons régulièrement en partenariat avec la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne. Enfin, nous attendrons le portrait d'Occitanie de la semaine en partenariat avec Lara. Cette semaine, vous découvrirez Christophe Glaise, directeur de l'Union forestière viganaise, au micro de Radio Ecclesia, la radio du diocèse de Nîmes. Il nous parlera notamment gestion durable des forêts d'Occitanie en espérant que cela ne soit pas durable de lapin. Mais on commence tout de suite ce comme lundi avec les messages que vous nous avez laissés sur la boîte vocale de Radio Albitzes au 05 63 77 61 75.
Allô, c'est moi, tu n'es pas rentré.
LBD, 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 loi anti-casseurs. Ceux qui nous gouvernent ne peuvent plus dorénavant tenir leur place que protégés par les boucliers, les matraques et les LBD broyeurs de mâchoires de leurs chiens de garde et par les tribunaux des comparutions immédiates. Leur pouvoir ne repose que sur la force brutale, perpétuelle et la supercherie. LBD, LBD, LBD.
Oui, bonjour à tous. Yves de Toulouse. Bon, quelques informations qui ont été révélées hier et qu'on peut voir sur la machine Internet. Ben, un fonctionnaire de police a filmé le 12 janvier dernier dans la salle du PC sécurité de la police de Toulouse, donc la manifestation, enfin, notamment le rassemblement place du Capitole qui a dégénéré. On entend, bon, évidemment, des fonctionnaires dire oui, vous pouvez tirer deux ou trois bastos, ça fera pas de mal. Voilà quoi. Donc c'est les propos quand même, bon, mis en ligne par le syndicat, enfin, ce fonctionnaire de police est syndiqué, je ne sais pas quel syndicat, parce qu'il faut dire que c'est vrai que la police ou même les CRS, et bon, encore moins les militaires, bon, ils ont un droit de réserve, enfin un droit, c'est la grande muette, mais c'est quand même grave afin de voir ça, de la part de fonctionnaires de police qui sont là pour assurer la sécurité, non pas pour tirer, pour éborgner, pour enlever des mains, etc., avec le lanceur de balles de défense et l'LBD, là. Voilà. En tout cas, bon combat à tous. Continuez. Et à très bientôt, à samedi, quoi. Samedi, quoi. Il faut remettre ça, quoi. On remet le couvert. Allez, bye bye.
Bonjour. Je me saisis de l'invitation qui émane de Radio Albiges pour s'exprimer. Et voici mon message, donc. Il existe depuis plusieurs années une association qui s'appelle l'ARAS. Ça veut dire Association des riverains du circuit du séquestre, qui lutte de toutes ses forces contre le bruit généré par le circuit. Ben, à l'heure où partout dans le monde une mobilisation se fait jour pour sauver le climat et la planète, n'est-il pas réducteur de s'en tenir au problème du bruit? Et ne pourrait-on intégrer la protestation contre l'indécence, l'obscénité, qui consiste durant des week-ends entiers à brûler du carburant, polluer l'atmosphère et, peut-être plus important encore, contribuer à la glorification de la bagnole au mépris des désastres climatiques et environnementaux annoncés, et déjà en cours d'ailleurs. Étendre ainsi le thème de la protestation, permettrait d'y impliquer beaucoup plus de gens que les seuls riverains du circuit. Si un tel regroupement pouvait s'opérer, j'en serais pour ma part. Moi que le circuit ne gêne guère, car j'habite assez loin de lui pour que le bruit ne soit pas mon problème. Je m'appelle René Pagès, j'habite Albi. Merci.
Friandise de l'esprit, les jeux de mots sont croustillants pour les neurones gourmands. J'ai entendu macronade, puis macronarchie. Pourquoi pas macronature ? Que d'inspiration pour ce Macron ! Dans les bouches roule souvent démocrature. Et pourquoi pas dictatocratie ?
La Saint-Valentin est une fête capitaliste. En effet, tout est fait pour inciter le bas peuple à se reproduire de façon à fournir la main-d'œuvre aux capitalistes. Vous l'aviez pas vu comme ça ?
Bonjour Radio Albigès, c'est Mélanie. Je voulais vous dire un grand merci parce que le matin, c'est vraiment un bonheur de se réveiller avec votre radio. Vous passez des musiques douces qui nous aident à nous réveiller en douceur pour ensuite prendre des forces pour affronter notre journée incertaine. Merci beaucoup Radio Albigès.
Allô, 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 allô. Allô, allô, allô.
Merci à vous auditeurs et auditrices pour ces messages laissés sur la boîte vocale de Radio Albitzès au 05 63 77 61 75. Une petite annonce qui n'a pas eu le temps d'être montée sur cette session répondeur. Un appel à manifestation des parents pour ce lundi devant la préfecture à 18h30 pour protester contre la menace de fermeture de deux classes dans les écoles Jean-Baptiste Calvignac élémentaire et Jean Jaurès élémentaire à Carmaux. Rendez-vous donc ce lundi à partir de 18h30 devant la préfecture du Tarn à Albi. A noter que selon un communiqué du syndicat SNUDI Force Ouvrière 81, lundi 4 février dernier, près de 150 personnes étaient rassemblées devant la DSDEN, Direction Académique des Services de l'Éducation Nationale, sur la question de la carte scolaire. Les professeurs, les parents et les élus ont défendu leur poste et pour certains leur école, qui n'est semble-t-il plus ciblée en fermeture. Nous avons eu aussi Jean-Paul Reynaud, vendredi dernier, au téléphone, pour parler d'une menace de fermeture de classe dans la ville dont il est maire, à Saint-Juéry donc. On l'écoute au micro de Jacqueline Falguérac.
Le DASEN, c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale, c'est-à-dire en fait le représentant de l'éducation nationale, de l'académie, sur le département. Voilà. Donc, il a écrit chez un de vos confrères, donc c'est vrai, puisque je crois la presse, il a écrit, non plus sérieusement, il a dit « tout ne peut pas relever que d'une logique arithmétique ». Donc, il se trouve que cette école Louisa Paulin, si on raisonne en termes uniquement de logique comptable, et en tout cas, apparemment, ce n'est pas ce que souhaite ni l'éducation nationale, ni la municipalité. Si on raisonne en termes comptables, les estimations qu'on nous projette pour la future rentrée scolaire, à mon avis, ne peuvent pas être fiables. La bonne et simple raison que cette école, je ne sais pas si vous la connaissez, non, se situe au pied de logements sociaux, une grande concentration de logements sociaux sur Saint-Juéry. Ce qui veut dire que nous avons un turnover un roulement de population dans ces ensembles de logements sociaux qui est beaucoup plus important que la moyenne. C'est-à-dire que nous sommes en début février, pour le mois de mars, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement qui va occuper tel et tel appartement, puisque, vous le savez, il y a des familles en difficulté qui forcément changent régulièrement pour diverses raisons de logement. Donc, on a déjà des difficultés pour prévoir le mois prochain, et là, on nous parle donc de prévision pour septembre 2019, c'est-à-dire dans 7 mois. Donc, cette comptabilité ne peut pas être juste. D'autre part, n'ont pas été prises en compte un certain nombre de paramètres que nous connaissons bien, nous, qui sommes au contact des populations. Voilà, tout ça pour dire que cette logique comptable, d'une part, est totalement faussée. Et d'autre part, à mon avis, ce n'est pas la seule qu'il faut prendre en compte, parce que, je vous explique, cette école Louisa Paulin, c'est plus qu'une école pour ce quartier. Ce quartier, en 2015, a été retiré de la politique de la ville, parce que le gouvernement a décidé que la moitié des quartiers dans le pays allaient être retirés de la politique de la ville, certainement pour des raisons budgétaires. Le fait est que Prattville est devenu un quartier qu'on appelle mis en veille, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie plus des aides et de l'accompagnement qu'on pouvait obtenir lorsqu'on est en politique de la ville. L'équipe enseignante de cette école, Louisa Paulin, a travaillé depuis très longtemps, mais notamment depuis 2 ans, à travailler en partenariat avec nos équipes municipales. Quand je dis nos équipes municipales, c'est la crèche, c'est le service jeunesse, ce sont les Francas, c'est aussi les services du conseil départemental avec la PMI. On travaille de façon à ce que il y ait un projet, des projets pédagogiques forts, dans lequel on impliquait, au-delà de ce quartier, bien entendu, l'ensemble de la commune de Saint-Juéry, mais avec un travail partenarial qui permettait, entre autres, par exemple, d'accueillir des enfants de très petites sections, c'est-à-dire des enfants de moins de 3 ans. Et je crois qu'il y avait des nécessités, il y a des nécessités sur ce quartier d'intégrer des enfants de très petites sections, de façon à les accompagner déjà à l'entrée ensuite à l'école maternelle. On comprend bien que si on supprime une classe, les effectifs ensuite ne permettront pas à l'équipe enseignante, déjà cette équipe enseignante va être démembrée parce qu'il manquera une personne, et donc ne permettront pas à ces effectifs de faire ce travail-là. Ce qui veut dire que d'un coup de trait de plume, on va rayer le travail qui se fait depuis de longues années en partenariat entre ce qui se fait à la municipalité et les équipes enseignantes. Et je pense qu'on aura du mal suite à ça, si malheureusement ça se passait, je pense qu'on aura du mal ensuite à remotiver à la fois les équipes enseignantes et à la fois les équipes municipales autour de projets qui permettaient au-delà de ce qui se fait dans l'éducation nationale et dans cette école Louis d'Apollin, au-delà c'était le lien social, c'était l'accompagnement de ce quartier. Donc l'enjeu, vous le voyez bien, et les enjeux quand même que porte l'éducation nationale, et les enjeux que porte l'éducation nationale à travers l'éducation de nos enfants sont considérables. Nous avons entrepris des démarches auprès de parlementaires, auprès de tout ce qui pouvait être un relais pour nous, mais également nous avons demandé un entretien au DAZEN. Donc je ne vous redis pas le DAZEN, donc c'est le directeur de l'académie.
D'accord.
Et les parents d'élèves et l'équipe enseignante ont été reçus hier matin par son adjoint, et j'ai été reçu hier après-midi avec deux adjoints par le DAZEN. Alors, ce que je peux vous dire de cette entrevue, c'est qu'il nous a été confirmé qu'aucune décision, pour l'instant, n'était prise. C'est que les arguments que je viens de vous donner, auxquels j'ai rajouté également que la municipalité de Saint-Juéry avait toujours joué son rôle de partenaire vis-à-vis de l'éducation nationale, puisque nous avons, dans deux écoles de Saint-Juéry, nous avons à Marie-Curie, l'autre groupe scolaire, nous avons une classe Ulysse, c'est une classe unités localisées d'inclusion scolaire, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont besoin d'un accompagnement particulier. Donc nous avons une classe Ulysse qui nous a été proposée par l'éducation nationale et que nous avons acceptée. Et nous avons au groupe scolaire René Rouquier, l'ITEP de la Renaudier, l'ITEP donc, qui est un institut thérapeutique éducative et pédagogique, l'ITEP de la Renaudier qui vient aussi, nous prêtons des locaux au groupe scolaire René Rouquier, de façon à ce que ces enfants aussi d'ITEP qui sont des enfants en difficulté, puissent venir dans des classes avec les autres, en tout cas à côté, et faciliter l'inclusion de ces enfants. C'est-à-dire que nous avons toujours joué le jeu vis-à-vis de l'éducation nationale. On est venu aussi avec une proposition qui était celle de l'équipe enseignante et qui correspond exactement à ce qu'on souhaitait proposer nous aussi, c'est-à-dire qu'on lui a demandé une année supplémentaire, c'est-à-dire geler pour l'instant cette année cette suppression de classe, nous donner une année supplémentaire de façon à voir à la fois l'évolution des effectifs et éventuellement se préparer par rapport au projet, à tout le travail qui est fait, qui est en cours et le travail à venir, puisqu'on travaille aussi sur une plateforme jeunesse. Et de façon à ce que ce travail, même si éventuellement l'année prochaine une classe était supprimée, que ce travail puisse être maintenu et sauvegardé, et non pas qu'on se retrouve comme ça brutalement du jour au lendemain avec tout un travail qui existe depuis de longues années et qui s'effondre.
Voilà, c'était un entretien avec Jean-Paul Reynaud, maire de Saint-Juéry, joint par téléphone par Jacqueline Falguérac vendredi dernier. À l'heure où nous parlons, il semblerait que la proposition de maintenir la classe encore pour un an ait été acceptée. À suivre donc pour ce qui devient un véritable dossier, tant les annonces de fermeture de classes, voire d'écoles, nous arrivent nombreuses. On en reparlera sur Albitsis. Allez, on enchaîne, on va parler monologue du vagin avec le planning familial du Tarn. Wow, c'est comme un lundi sur Radio Albitsis.
C'est lundi, ouais, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travail.
Le planning familial du Tarn, association féministe et d'éducation populaire, répond à toutes vos questions de sexualité et de santé sexuelle. Elle est présente dans plusieurs lieux du Tarn via des permanences. L'association agit aussi par le biais du théâtre et vous donne rendez-vous ce mercredi 13 février à 20h30 au Théâtre d'Hélice à Albi pour une représentation des monologues du vagin de Eve Ensler, dramaturge et féministe américaine. La soirée est organisée par le club des Soroptimistes. Nous avons croisé des bénévoles et des salariés du planning familial du Tarn à Rabastens pour nous en parler.
La présence sur des lieux de manifestation, c'est une façon aussi de faire passer les messages de l'action du planning familial. Et notamment aussi, notre forme de militantisme, il prend aussi d'autres formes en étant nous-mêmes engagés, et on va en parler peut-être maintenant, puisque depuis 3 ans, il y a un engagement des bénévoles actives qui ont envie d'agir et qui ont envie d'être acteurs et actrices surtout, et notamment montant les monologues du vagin de Eve Ensler, pardon. Et donc c'est des moyens de faire connaître, c'est une façon de militer qui est très importante parce qu'on peut toucher tout à chacun, et à travers des messages, à travers la littérature, à travers des femmes qui parlent et qui ont parlé et continuent à parler. Et nous-mêmes, on est engagés là-dedans. Ça nous permet aussi de récupérer un peu de sous et de développer nos idées de façon assez dynamique. On s'amuse aussi, ça il faut le dire, c'est important. On se fait plaisir. Il n'y a pas de contraintes. C'est-à-dire, si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fait pas. Et on est là parce qu'on le souhaite. Et qu'on est en adéquation, bien sûr, à la base, avec les objectifs fondateurs du planning familial.
Si votre vagin pouvait parler, que dirait-il en 2 mots ?
Tout doux.
C'est toi ?
Nourris-moi, je veux.
Miam, miam.
Oh ouais.
Recommence.
Non, là-bas.
Lèche-moi.
Reste là.
Sois courageux.
Je crois que c'est en février que vous allez donner les monologues du vagin. Et ça sera une première, en tout cas pour la salle, ça sera au théâtre, je crois, d'Albi. Alors, qui veut nous dire un petit peu, peut-être l'historique, puisque ça a déjà été joué plusieurs fois dans le département. Mais qu'est-ce qui est de nouveau d'année en année, et cette première au théâtre, Nadine?
Oui, à l'origine de notre engagement dans la lecture des monologues du vagin, c'était il y a 3 ans. Donc nous avions l'habitude de faire, à l'occasion du 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes, un événement public où on a invité, par exemple en 2014, Anne Sylvestre, on a participé à un concert des délinquantes, on a fait plusieurs événements comme ça. Et cette année-là, eh bien, nous n'avions pas de sous et nous étions un peu angoissés. Donc, on s'est dit, pas question d'engager des frais. Et donc, comme on avait quand même envie de marquer le paysage, on s'est dit, c'est nous qui allons nous engager personnellement. Donc, on s'est regroupés en 2 équipes, une dans le Tarn Nord et une dans le Tarn Sud, 2 équipes de bénévoles et salariés. Chacune ont choisi un des textes d'Eve Ensler, donc sur des monologues du vagin, et qui se sont, avec l'aide de 2 metteurs en scène, donc la première c'est dans le Nord, Aurore Lera, et puis ensuite Gilles Guérin, excusez-moi, dans le Sud, voilà, qui nous a apporté une aide précieuse et qui nous ont aidés à mettre en parole donc ces textes, et ça nous a beaucoup plu. Nous avons commencé à Castres, la première représentation a eu lieu à Castres au cinéma Le Lido avec le film d'Irène Théry qui était La sociologue et l'ourson. Et donc ensuite nous sommes allés à Gaillac, à Carte sur Table, et là on nous a dit c'est dommage, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc l'année d'après on a dit on recommence. Donc cette fois-là ça a eu lieu à Rabastens et ensuite à Lautrec au Café Plume, donc là aussi ça le plein, et à Albi au Frigo. Et là nous avons rencontré une autre association, enfin c'est pas tout à fait une association, mais c'est un club de femmes qui s'appelle les Soroptimistes, qui nous ont proposé en 2019 de jouer les monologues du vagin au théâtre d'Albi. Donc c'est super pour nous déjà de se sentir un peu comme ça mis en avant par une autre association qui a des préoccupations féministes aussi, et qui nous fait confiance, et qui se charge de tout le travail d'organisation. Ça, j'avoue que on fait un peu les vedettes là à ce niveau. Mais aussi, c'est un défi parce que bien, c'est une autre salle. Hein, c'est une autre salle à remplir avec une jauge nettement supérieure à ce que l'on avait fait. Donc, on compte vraiment sur tous les tarifs.
Frigo, on poussait les murs quand même. Ça n'y avait pas de place pour tout le monde. Donc, il fallait passer à plus.
On était à 150. Hein.
Voilà, on était 150 au frigo. Mais là, la jauge de 4 à 500 personnes. Donc voilà, on compte vraiment sur vous. Et puis, ça risque surtout d'être la dernière fois, au moins dans l'immédiat, pour cette pièce-là. Quoi. Voilà. Donc, ça aura lieu le 13 février à 20h30 au Théâtre d'Albi. Si votre vagin pouvait parler, que dirait-il en deux mots ?
Réfléchis.
Encore, please.
Étreins-moi.
On joue ?
Ne t'arrête pas. Encore, encore.
Tu te souviens de moi ?
Entre ici.
Pas encore.
Waouh, maman. Oui, oui.
Berce-moi.
Entre à tes risques et périls.
Oh, mon Dieu.
Dieu merci.
Est-ce qu'il faut précommander quelque part ? Faut s'adresser à qui si on veut réserver ou avoir des informations un petit peu sur le... Ou comment vous aider à l'organiser peut-être aussi ?
Alors pour les réservations, 06 16 09 13 55, sachant que quand même, bon, je pense qu'on peut, venir à partir de 20h. Sera ouvert et il y aura de la place parce que le petit théâtre d'Albi, il y a 350-400 places à peu près. Voilà.
Est-ce que c'est la même équipe qui repart pour cette année ? Il y a des nouveaux, des nouvelles, des anciens et des anciennes ?
La même équipe ouais.
Pratiquement à une ou deux personnes près, des personnes qui ne peuvent pas être là, qui sont indisponibles, qui sont remplacées par d'autres bénévoles qui ont envie de participer à l'aventure. Donc, en gros, c'est la même équipe. On est une bonne vingtaine de personnes, oui. Si votre vagin pouvait parler, que dirait-il en deux mots ?
Je suis là.
Let's go.
Trouve-moi.
Merci bien.
Hello. Trop dur.
N'abandonne pas.
Oui, Brian.
C'est mieux.
Oui. Là. Là.
Merci à Agnès, Ambre, Florence, Nadine et Nadia du planning familial du Tarn qui vous attend donc ce mercredi 13 février à 20h30 au Théâtre des Lys à Albi pour les monologues du vagin. A noter que vous pourrez entendre un reportage long format réalisé auprès du planning familial du Tarn où nous parlerons de ces missions tout au long de l'année. Diffusion demain mardi 12 février sur nos ondes, ce sera à 8h du matin et l'émission sera rediffusée ce vendredi 15 février à 14h. Pour contacter le planning familial, c'est sur le courriel planningfamilial81@gmail.com et pour les réservations pour les monologues du vagin de ce mercredi au Théâtre des Lys à Albi, c'est au 06 16 09 13 55 06 16 09 13 55. Allez, allez, on arrête un petit peu de faire la tête. C'est comme un lundi sur Radio Abitsis.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Nous voilà en compagnie d'Elisabeth Clavery, présidente de Tarn Habitat, l'office public départemental d'HLM du Tarn. Madame Clavery, bonjour.
Bonjour.
Une interview pour faire le point sur cette année 2018, nous parler de 2019, mais avant tout, pour ceux qui ne connaîtraient pas Tarn Habitat, est-ce que vous pouvez nous présenter cet office public départemental d'HLM, ses actions, sa gestion ?
Alors, l'office public Tarn Habitat, c'est plus de 8500 logements. Sur tout le département, 19 foyers et 182 commerces. C'est aussi, si on veut parler de l'emploi, 220 emplois sur le département. Une des spécificités aussi, c'est une régie, ce que n'ont pas d'autres offices, hein, et puis aussi 6 agences qui sont réparties sur l'ensemble du Tarn. Voilà la première présentation que l'on peut faire. Ensuite, au niveau de la communication, nous avons lancé l'an dernier une opération qui s'appelle Ma solution logement pour tous, qui s'adresse à toutes les familles, qui s'adresse aussi aux étudiants, puisqu'on a des actions envers les étudiants dans certains quartiers, et qui s'adresse aussi aux seniors, hein, puisqu'on a de plus en plus de logements adaptés. On en a un petit peu plus de 450 logements adaptés selon les besoins des personnes âgées et des personnes ayant un handicap. Voilà pour la première, on va dire, présentation que l'on peut faire de Tarnhabitat. Le budget de 2018 a été de 77 millions, après une année un petit peu difficile, hein, puisqu'il y a eu les nouvelles lois qu'il a fallu mettre en place, et donc ça a été pour Tarnhabitat 2 millions en moins, hein, avec le RLS, voilà. Et pour 2019, on a un budget de 79 millions. Alors, les chiffres ne veulent peut-être pas dire grand-chose, mais il faut savoir qu'en 2016, on avait un budget de 100 millions, parce qu'on avait à ce moment-là beaucoup plus d'opérations qui ont pu se réaliser. Donc, après une période un petit peu, on va dire, difficile, où on avait gelé certains projets, là, depuis 6 mois, on va dire que l'activité bat son plein. Et c'est même un petit peu un paradoxe aujourd'hui, puisque par rapport à certaines opérations, on a du mal à trouver des entreprises qui veuillent répondre dans le temps imparti. Donc, ça nous pose aujourd'hui ces difficultés-là, voilà. Donc, c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu un retournement de situation. Pour les principales opérations engagées pour 2019, alors nous avons l'opération qui se poursuit à La Bruyère, à Carmaux, où on a une construction de 36 logements qui doivent être livrés au mois de mai 2019. Ensuite, nous avons une petite opération au village de Sainte-Croix avec 6 logements aussi au mois de mai 2019. Une opération de petite maison à Lescure, au Serraillol, construction de 14 maisons. Là, c'est pour fin d'année 2019, on va dire janvier 2020. Ensuite, Groyer-Crèze 2. Là, c'est une grande opération. Il y a d'abord des déconstructions qui vont être faites, des constructions de 35 logements. Et puis ensuite, il va y avoir les déconstructions. Il y aura aussi des réhabilitations sur Crèze 2. Des opérations aussi qui vont commencer sur Gaillac, dans le quartier de Lantajou, où là aussi il y aura des déconstructions, de 28 logements. Et puis ensuite, des opérations sur Saint-Sulpice, réhabilitation de 12 logements. Et puis, on a aussi les études qui maintenant se terminent pour l'ANRU, le gros projet de Cantepot. Et ce projet-là, on va commencer en 2019, ça va être d'abord le relogement. Puisqu'avant de démolir, de réhabiliter, il va falloir reloger, bien sûr, certains habitants.
Alors, l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est un gros projet sur le long terme de réaménagement de quartiers. Et là, notamment, ça nous concerne directement, nous, à Radio Albigès, du quartier de Cantepot. Et vous êtes l'une des chevilles ouvrières, mais pas la seule.
Et oui, voilà, là, nous travaillons, bien sûr, avec la municipalité d'Albi et avec la C2A, voilà. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, on a eu donc beaucoup d'opérations techniques, hein, et maintenant on va passer, si vous voulez, on avance, on va signer prochainement une convention, et puis on va commencer, on va rentrer dans une autre phase, on va pouvoir réunir les habitants, hein, leur donner nos projets, parce qu'il va falloir reloger, il va falloir après démolir, hein, bien sûr, certains logements, il va falloir réhabiliter, enfin, il y a beaucoup de travaux qui vont être faits. Si vous voulez, les premières phases ont été faites, puisque la première phase, c'était les commerces, avec des commerces maintenant très dynamiques, l'espace LAN. Ensuite, il y a eu sur le square Bonaparte la MSAP, que nous avons inauguré il y a quelques mois, avec les services du département, les services de la mairie, et puis aussi d'autres services qui sont là, que ce soit pour l'emploi, la poste, etc. Voilà, donc ça a été vraiment des points très importants et qui donnent de très bons résultats. Et donc maintenant, on va continuer avec les logements, avec les différentes opérations que nous allons mener sur plusieurs années. Alors quand je dis sur plusieurs années, il faut considérer que la rue, ça va être 10-12 ans. Hein, donc voilà, hein, ça va être assez long. Et pour Tarnhabitat, c'est quand même un coût de 50 millions d'euros. Hein, donc c'est le grand projet de Tarnhabitat pour les années à venir.
Elisabeth Clavery, présidente de Tarnhabitat, avec une interview réalisée en janvier 2019. N'hésitez pas, pour plus d'informations, à aller consulter le site tarnhabitat.fr. On continue nos entretiens consacrés au logement, avec cette fois-ci Moa Ouxiz de la CNL 81, la Confédération Nationale du Logement. Nous voilà en compagnie de Moa Ougziz, habitant du quartier de Cantepo à Albi, président de la CNL 81 et élu au conseil d'administration du Tarn Habitat. La CNL 81, c'est la Confédération nationale du logement du Tarn. Moa, bien le bonjour, Bounsoun.
Bonjour Arnaud. Merci pour cette invitation.
C'est un plaisir. Alors, on a le plaisir de présenter la CNL, ses actions et son fonctionnement, puisque Radio Albigès aussi est locataire d'un HLM auprès de Tarn Habitat et réside depuis plus de 20 ans dans le quartier de Cantepo. Alors, avant de présenter son fonctionnement, comment est constituée et comment fonctionne la CNL du Tarn?
Voilà, merci. Donc, la CNL, c'est une association de 1901. C'est une organisation qui défend les intérêts des locataires. Dans le Tarn, il est organisé de la sorte, de la même façon que les autres fédérations dans tout le département. Hein. On a un bureau fédéral, on a un conseil d'administration, on a les adhérents. Et en plus de cela, on a des élus qu'on représente chaque 4 ans. Donc, il y a un mandat de 4 ans. On se présente des élus locataires et donc ils désignent ceux qui portent leur voix au sein des conseils d'administration, donc des bailleurs sociaux.
Alors, vous avez été réélu d'ailleurs en novembre 2018, c'est bien ça?
Tout à fait. C'est les dernières élections, c'est fin 2018. Il faut savoir, ces élections, elles portent sur 4 sièges. Il y avait la CNL et une autre organisation. La CNL, donc, a obtenu les 3 premiers sièges. L'autre siège, il ne revient pas. Mais il faut aussi savoir que dans la ville de Castres, à l'OPH de Castres,
L'OPH, l'Office public de l'habitat.
Exactement, c'est un HLM, c'est habitat à loyer modéré, il faut le rappeler tout le temps ça. Donc à Castres, c'est un office intercommunal. La CNL était la première, donc il y avait 4 élus, on a eu les 4 élus.
Alors, les représentants de la CNL, on l'imagine, sont des habitants d'HLM.
Bien sûr, la seule condition et la première condition pour être élu, il faut habiter dans les HLM.
Alors, concrètement, quelles sont les actions de la CNL 81? On imagine, vous êtes en lien autant avec les habitants, autant avec l'Office public départemental Tarn Habitat. Mmh.
Tout à fait. Alors, les actions vis-à-vis envers les locataires, c'est on est une sorte de leur voix, donc on porte leurs revendications, par exemple les demandes de logement, par exemple les travaux qui ne sont pas faits, par exemple des litiges qui lient les locataires avec les bailleurs sociaux, et pas que, parce que la CNL n'agit pas que dans le logement social, elle agit aussi dans le logement privé. Donc tout locataire est bienvenu à la CNL, on défend ses intérêts devant même la commission départementale de conciliation. C'est une structure, une sorte de tribunal où la CNL représente les locataires à côté des bailleurs et à côté de l'État, donc la préfecture, on essaie de trouver une solution à tous les litiges.
Et on peut avoir des exemples concrets d'actions de la CNL pour les locataires
Alors,
d'HLM pourquoi pas ici concrètement, ici dans le Tarn, à Albi et à Cantepo?
Exactement. Et bien, dans le Tarn, on agit par exemple sur les demandes de logement. Ou alors, il y a un manquement de la part du bailleur, et bien, on agit aussi quand il y a un manquement vis-à-vis des travaux, vis-à-vis d'une serrure, vis-à-vis d'une petite demande qui est, voilà, ça peut être banal, ça peut être une serrure, ça peut être du chauffage, ça peut être une facture impayée, ça peut être, etc., etc. On a des demandes infinies de cette sorte.
Des demandes individuelles, mais aussi des actions qui vont concerner le collectif, comme je crois savoir, vous avez obtenu un gel des loyers ou une augmentation du prix de l'eau?
On a obtenu pour le moment le gel de loyer pendant 4 ans. Cette année, ce n'est plus le cas. Le conseil d'administration a fait le forcing pour ne pas se tenir et se maintenir à ce gel de loyer. On a une action actuelle et 2 actuelles sur Saint-Jury qui concernent un groupement de locataires dans des résidences d'HLM Tarn Habitat.
Moa Ouxiz avec nous de la CNL 81, la Confédération Nationale du Logement. Pour vous contacter, donc peut-être justement un numéro de téléphone, le 05 63 47 20 24. Vous êtes aussi présent sur Internet, donc via un réseau social cnl.tarn et une adresse mail cnl81@orange.fr. Deux petites dernières questions. Comment se fait le lien justement avec les habitants du quartier? Est-ce qu'il y a des réunions formelles? Est-ce qu'il y a des permanences?
Exactement, on a 4 permanences dans tout le département. Donc concernant le bailleur social Tarnabeta, qui dans l'accord qu'on a signé avec ce bailleur, il y a 4 permanences. Une à Carmo, une à Contepo, c'est juste voisine de la radio d'ailleurs. À André Chinguet, une autre à Gaillac et une autre à la ville de Grouillé. Donc on a 4 permanences, on reçoit sur rendez-vous, il suffit de nous appeler au numéro et donc on prend rendez-vous, les locataires prennent rendez-vous avec un des responsables de la CNL pour résoudre et satisfaire sa demande.
Très bien. Pour finir, je crois que vous voulez aborder deux petits points.
Deux petits points. C'est juste pour l'action. Il faudrait savoir que la CNL siège dans les commissions d'attribution de logements. Hein, c'est un droit, donc on y siège. Et on siège aussi dans le conseil d'administration, on l'a dit. Le bureau de Tarnabeta, moi j'y siège comme représentant des locataires. Et on siège dans toutes les autres commissions. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport à l'idée reçue que l'HLM est réservé aux familles, aux ménages démunis. Alors que cette idée, elle est fausse. J'aimerais bien qu'on retienne 2 chiffres, rien que Tarnabeta. Par exemple, sur le budget de 2019, le produit de Tarnabeta, c'est 49 millions, plus que 49 millions. Sur les 49 millions, l'argent des locataires, le loyer que paye le locataire et les charges qu'il paye le locataire, eh ben c'est de l'ordre de 40 millions. Donc vous voyez, vous faites le pourcentage, que cet argent-là, la source de cet argent, c'est les loyers des locataires. Donc personne n'assiste les locataires dans les HLM. Donc cette idée, j'aimerais bien, j'insiste là-dessus, on n'est pas des assistés, on paye. Et sur avec les chiffres, j'aimerais bien quand même que cette idée soit bien claire à vos auditeurs. Et c'est nous que finançons les HLM. Voilà cette idée. La deuxième idée vite fait, c'est la loi Elan. La loi Elan dans ses dernières recommandations.
Alors la loi Elan qui date de quand, qui est passée,
c'est récent, c'est tout à fait récent. Donc c'est son article 25 hein, qui tient, il touche cette loi, il touche le logement, l'aménagement et le numérique. Il est voté, il est passé cette année-là. Hein, il exige des HLM de plus de 12 000 logements de se regrouper. Bon, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, ça, voilà, à débattre. Le problème où il est, c'est qu'on impose aux HLM, c'est des établissements publics, des offices publics, de se constituer en groupement privé. Donc les locataires n'auront pas les mêmes droits. Donc tout l'HLM, c'est une manière de le privatiser après avoir privatisé sa comptabilité. Les HLM ne sont pas obligés de maintenir la comptabilité publique. Ils sont passés maintenant à la comptabilité privée. La CNL a voté contre, bien évidemment.
Très bien, merci bien Moa Ouxiz. Donc je rappelle, vous êtes un des représentants et président de la CNL 81, la Confédération Nationale du Logement du Tarn, élu au conseil d'administration de Tarn Habitat et habitant du quartier de Cantepo. N'hésitez pas, pour nos auditeurs, à contacter la CNL au 05 63 47 20 24 par mail cnl81@orange.fr et bien sûr à retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, Ouxiz, grand merci Père Toutaco, salam et à plaisir.
Salam, merci Arnaud.
J'ai besoin d'un matin pour me ranger, d'un lundi pour tout changer.
Alors comme ça on a fait des bêtises.
D'un lundi pour tout changer.
Eh ben tu pouvais pas mieux tomber mon garçon.
D'un lundi pour tout changer.
C'est comme un lundi sur Radio Albigès.
D'un lundi pour tout changer.
Tous les lundis à midi et 18h.
À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, le 13 février prochain, l'UNESCO s'est entretenue avec Madame Michèle Betz, qui a plus de 25 ans d'expérience en tant qu'experte principale du développement des médias et de la liberté de la presse, journaliste et éducatrice en journalisme. Ses domaines d'expertise incluent les médias dans les conflits et l'après-conflit, les relations entre les médias, les questions de sécurité et les interventions à réaction rapide. Elle s'intéresse particulièrement à l'utilisation des médias dans la prévention et la résolution des conflits. Michèle a travaillé avec des journalistes et des stations de radio du monde entier, notamment au Rwanda, au Ghana, au Burundi, au Mali ou encore au Burkina Faso. On écoute l'entrevue que l'UNESCO a eue avec Michèle Betz.
Merci Michèle d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'expérience professionnelle avec les stations de radio et les professionnels des médias dans des situations de conflit. D'après votre expérience, quel est l'impact des médias dans les situations de conflit et post-conflit ?
En fin de compte, les médias jouent un rôle essentiel en garantissant notre droit fondamental d'accès à l'information tel qu'il est énoncé à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les médias peuvent vraiment rassembler les gens et ils peuvent les déchirer. Le meilleur exemple est celui d'une radio haineuse au Rwanda en 1994. La radio peut fournir un espace où les gens peuvent se réunir, discuter, argumenter et exprimer leurs commentaires de manière non violente. La communication est un instrument efficace qui peut promouvoir la démocratie à la base, émettre des problèmes locaux, fournir une source d'information alternative aux chaînes officielles, reflétant toutes les différences que représentent certains de ces pays en conflit. Je pense que les médias sont également essentiels pour fournir des informations importantes en temps de conflit et après. Des informations qui aideront à réunir les familles, les gens à trouver de la nourriture, des abris, de l'eau potable. Des informations qui peuvent même contribuer à atténuer les tensions et le chaos que l'on rencontre souvent en période de conflit.
En se concentrant sur les situations d'après-conflit, comment la radio peut-elle rassembler les communautés afin de traiter des problèmes communs ?
Je pense que le meilleur exemple qui me vient à l'esprit est encore une fois au Rwanda, où j'ai eu l'honneur de travailler sur un projet de l'UNESCO en 2005 qui visait à créer une radio communautaire basée à l'université Radio Salus. C'était l'une des toutes premières stations de radio post-génocide du pays et elle avait été créée par des étudiants pour leur communauté. Leur programmation est le résultat d'une interaction directe avec la communauté. Ces enfants sont allés directement dans la communauté, se sont rencontrés, ont marché dans la rue de la ville et ont parlé aux gens, leur demandant de quoi ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient entendre parler à la radio. Et c'est ainsi que la programmation s'est développée. C'était une façon de faire entendre différentes voix à la radio pour parler des problèmes qui les touchaient 10 ans après le génocide. La station de radio continue d'émettre aujourd'hui encore. Je suis heureuse de le dire.
Dans votre expérience de travail avec des stations de radio dans des situations de conflit, avez-vous connu des histoires qui se concentrent sur l'égalité ou l'inégalité des genres ?
Ce qui me frappe le plus en ce qui concerne l'égalité des sexes ou l'inégalité des sexes, c'est le fait que dans de nombreux cas, les femmes journalistes sont menacées dans des situations de conflit. Dans beaucoup de ces pays, les femmes vont généralement à l'encontre des normes culturelles et des stigmates pour se lancer dans la profession de journaliste. Dans de nombreux conflits, les journalistes sont victimes d'atteintes aux droits humains. Pourtant, les femmes font face à des menaces, harcèlement et violences liées au genre. Nous devons faire plus pour soutenir les femmes qui travaillent à la radio dans des situations de conflit.
Oui, bien sûr. Maintenant que nous nous concentrons sur la radio parmi d'autres médias, quel est selon vous le trait distinctif de la radio qui contribue à la consolidation de la paix ?
La particularité de la radio est simplement qu'elle est accessible. Il n'est pas nécessaire de savoir lire et écrire pour écouter la radio. L'impact est donc extrêmement important. Il est très facilement disponible. Vous pouvez désormais même écouter la radio sur votre téléphone portable. C'est un coût relativement faible. Je pense à un projet spécifique au Népal, qui était en fait au Népal post-séisme, où les stations de radio communautaires de ces petits villages décrivaient en grande partie des questions de responsabilité et tenaient les responsables locaux pour responsables de la reconstruction après le séisme. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini par s'associer à d'autres stations de radio communautaires du pays, ainsi qu'aux principaux radiodiffuseurs de Katmandou. Donc, tous ces ponts ont été construits entre les journalistes et les communautés qui ont pu constater que nous ne sommes pas seuls ici, nous ne sommes pas seuls à avoir des problèmes et des conflits. Et si nous pouvons tous travailler ensemble, alors peut-être pouvons-nous les résoudre ensemble.
La journée mondiale de la radio de cette année a pour thème radio et dialogue, tolérance et paix. Quel est le message de votre journée mondiale de la radio ?
Mon message pour la journée mondiale de la radio est simplement de nous dire à tous et à toutes, utilisons la radio pour construire la paix, promouvoir la tolérance et apprendre à se connaître, car nous sommes tous beaucoup plus semblables que nous sommes différents.
Thank you for your time and thank you for being with us.
Thank you so much for having me.
C'était les propos de Michel Betz, interviewé par l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la radio qui a lieu ce 13 février. On peut retrouver l'intégralité de cette entrevue sur le site www.diamondialradio.org.
Comment ça va? Comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai. Je peux pas travailler.
Sur Radio Albigès, on fait tout pour vous faire aimer le lundi. C'est comme un lundi.
Bonjour chers auditeurs, c'est dans le cadre de l'opération Make Your Europe, un projet pour mieux comprendre l'Europe, porté par plusieurs intervenants et associations de la Nouvelle-Aquitaine et bien entendu soutenu par le Parlement européen, que nous vous présentons aujourd'hui notre nouvelle rubrique qui sera consacrée à l'Union européenne. C'est un programme d'émission mensuel auquel je vous invite de nous retrouver jusqu'au mois de mai, date des élections européennes. Alors aujourd'hui, nous recevons dans ce cadre-là notre premier intervenant. Il s'agit de Carlos Manuel Alves, maître de conférence en droit public, chercheur au Centre de recherche et de documentation européenne et internationale, membre du Centre d'excellence Jean Monnet, à la Faculté de droit, de sciences et politique de Bordeaux. Bonjour Carlos, comment allez-vous ce matin ?
Bonjour, très bien, je vous remercie.
Donc, on va entamer ce petit cycle d'interviews radiophoniques par vous. Dans le cadre, vous l'avez compris, de ces futures élections européennes et pour permettre à tous nos auditeurs de mieux appréhender le rôle et les compétences du Parlement européen, le 26 mai prochain, nous allons donc avoir droit à ces élections pour les futurs députés européens. Alors, pour vous, la première question que je peux vous poser, c'est quel est réellement leur pouvoir et quel est vraiment leur rôle dans le Parlement et comment peut-on nous le ressentir ici à notre échelle locale ?
Alors, les parlementaires européens, après les prochaines élections, seront au nombre de 705, puisqu'il y a le Brexit qui va intervenir, donc ils sont 751 aujourd'hui. Ces députés européens, initialement, ils avaient très peu de pouvoir en 1979, lors des premières élections européennes, mais aujourd'hui, le Parlement européen a des pouvoirs qui ressemblent assez largement à ceux des parlements nationaux. C'est-à-dire que les parlementaires européens vont voter la loi européenne, entre guillemets, c'est-à-dire les règlements et les directives. Ils vont voter le budget de l'Union européenne. Ils vont participer à la ventilation des dépenses, à la répartition des dépenses, par exemple entre la PAC, subvention agricole. La France est largement bénéficiaire de la politique agricole commune. La PAC peut être consacrée à la PAC. Et puis le Parlement européen sert aussi à contrôler la Commission européenne. Le Parlement européen peut voter une motion de censure, comme on peut voter une motion de censure au niveau national contre un gouvernement, pour faire démissionner la Commission européenne si jamais il y a un désaccord politique ou un scandale, comme ça avait pu être le cas avec la Commission Santerre d'ailleurs dans les années 90, qui avait démissionné d'ailleurs sous la menace d'une motion de censure.
D'accord. Donc on comprend bien le renforcement des pouvoirs dans le temps du Parlement, mais bien entendu à l'échelle locale que nous représentons ici, on entend souvent dire que c'est un petit peu l'Europe et la Commission Il y a déjà une confusion entre la Commission et le Parlement. Il y a un amalgame qui est régulièrement fait. On entend dire que c'est donc la Commission européenne qui décide de tout. En fait, qu'en est-il ? Vous venez d'expliquer que parfois elle est soumise à un contrôle du Parlement. Donc, est-ce qu'on peut expliquer la différence d'intervention de ces deux organismes qui gèrent l'Europe ?
Alors, la Commission européenne, justement, ses liens avec le Parlement ont été renforcés depuis le traité de Lisbonne, donc le dernier traité adopté en 2007. Et le président de la Commission européenne est désormais choisi à la fois par les États et par le Parlement européen à l'issue des élections européennes. C'est-à-dire que la majorité qui va sortir des urnes au mois de mai prochain va permettre de choisir le président de la Commission européenne. Il faudra que ce soit un membre du premier parti arrivé en tête aux élections européennes. Donc il y a ce lien déjà, premièrement. Et ensuite, la Commission européenne, pour sa part, elle a largement un rôle de gardienne des traités. Elle est là pour vérifier que les règles sont bien respectées.
D'accord, effectivement.
Donc elle va vérifier, par exemple, que les GAFA, par exemple, ces fameuses GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon, elles respectent bien les règles de la concurrence. Si c'est pas le cas, il peut y avoir des poursuites au titre du droit de la concurrence. Il y a une position d'amende. Et puis la Commission européenne, elle sert aussi à proposer des lois européennes, mais elle ne fait que poser. Ce sont ensuite les États et le Parlement européen qui décident. Et d'ailleurs, ce rôle de proposition, il est en partie lui aussi sous influence, si je puis dire, dans la mesure où 9 propositions sur 10 de la Commission européenne lui sont entre guillemets suggérées par les États, le Parlement européen, la société civile. Voilà, donc la Commission européenne ne fonctionne pas en vase clos, elle est en interaction et notamment avec le Parlement européen.
On voit effectivement que la Commission et l'Union européenne sert parfois à nos responsables politiques de bouc émissaire, rendus responsables de beaucoup de décisions impopulaires pour telle ou telle raison. Est-ce vraiment la réalité de ce qu'on nous prétend de voir la Commission et l'Union européenne être comme un petit peu supranationale, qui s'impose, un organisme qui s'impose aux décisions nationales.
Alors, vous avez raison, c'est vrai qu'on entend souvent dire « Bruxelles décide de ceci, Bruxelles décide de cela ». C'est vrai, si je puis dire, c'est un peu court dans la mesure, en fait, c'est Bruxelles, c'est Paris, c'est Rome, en fait, ce sont les États. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les États qui décident. Quand on dit Bruxelles décide, oui, parce que la Belgique participe de la décision. Donc ce sont largement les États qui décident avec le Parlement européen. L'Union européenne, en fait, elle repose sur un système de double majorité. Quand une règle a été adoptée à l'échelle européenne, c'est qu'il y a eu une majorité d'États et une majorité de députés européens qui ont voté pour. Voilà. Donc il y a un double filtre. Majorité des États, majorité au sein du Parlement européen. Et donc, en plus, pour certains domaines, particulièrement sensibles du point de vue de la souveraineté, c'est l'unanimité des États qui est requise. C'est-à-dire qu'il faut que Bruxelles, Paris, Rome, enfin, toutes, je ne vais pas vous faire la liste des 27 capitales, enfin 28 encore jusqu'à fin mars, doivent être d'accord, par exemple, en matière de fiscalité. On ne peut pas adopter une mesure fiscale à l'échelle européenne, par exemple une taxe carbone à l'échelle européenne, ou une taxe sur les transactions financières, s'il n'y a pas d'unanimité. Il faut qu'il y ait accord de tous les États. Donc Bruxelles, en fait, pas en tant que telle, pas elle seule, non. Ne peut pas décider.
Voilà une mise au point qui pourra également être portée pour réponse à la plupart de des questions de nos auditeurs. En fait, vous parliez aussi des compétences de l'Union européenne, notamment vous citiez l'exemple de la PAC. Y a-t-il d'autres domaines dans lesquels l'Union européenne peut décider aux gouvernements nationaux des États membres des règles ou des choses particulières ?
Alors vous avez raison de rappeler que l'Union européenne intervient en matière d'agriculture, et encore une fois pour la France c'est très important. L'Union européenne intervient aussi en matière de marché intérieur et de concurrence. Par exemple, c'est grâce à l'Union européenne que maintenant le tarif des communications par téléphone mobile en Europe est le même que si vous passez un appel en France.
C'est
ce qu'on appelle le roaming. Donc il y a eu, grâce à l'Europe, en fait, une suppression de cet avantage qu'avaient les compagnies de téléphonie de taxer de manière beaucoup plus importante les appels à l'étranger que les appels nationaux.
Très bien. Bon, merci Carlos. Nous arrivons au terme de notre entretien. Merci à vous de votre disponibilité et des informations que vous avez pu nous transmettre. J'espère bien entendu qu'elles seront très très utiles à nos auditeurs, et nous espérons vous revoir très prochainement. Nous savons que vous êtes intervenant et maître de conférence à l'université. Deux petits mots pour conclure sur votre rôle au terme à la Fac de Bordeaux.
Mon rôle à la Faculté de droit de Bordeaux, c'est justement de parler d'Europe, d'expliquer l'Europe et par exemple pour ces élections européennes de rappeler que en fait il y a un lien au niveau du Parlement européen entre la légitimité démocratique et les pouvoirs. Le Parlement européen peut être un instrument d'autant plus fort que sa légitimité démocratique est forte.
Merci encore Carlos, à très bientôt. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission radio en podcast sur les ondes de votre radio préférée et si vous souhaitez vous informer sur l'Europe, les centres d'information Europe Direct présents sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine sont bien entendu à votre disposition. Enfin, pour poursuivre le débat, je vous rappelle notre hashtag Make Your Europe.
Et maintenant, que faire maintenant?
Ben, on reste calme et on continue d'écouter comme un lundi sur Radio Albitis.
Citoyens d'Occitanie,
un portrait proposé par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Christophe Glaise, directeur de l'Union forestière viganaise.
Vous êtes Cévenol Pure Land Paris.
Voilà, tout à fait. Cévenol, mais c'est dans les Cévenol méridionales, côté Le Vigan.
Vous êtes parti un moment, c'était pour des études ou c'était pour le travail?
C'était pour ma première carrière dans l'informatique. Comme je voulais revenir dans mon territoire natal, dans les Cévennes, ça s'est passé à travers la reprise du flambeau de l'entreprise familiale créée par le grand-père. Donc aujourd'hui, je dirige le groupe UFV Bois avec mon frère, Pascal, qui lui est tombé dans le bois quand il était petit, il est tombé dans la sciure. Moi, je suis né à côté, mais c'est vrai que ce qui s'explique peut-être, c'est notre complémentarité. Lui est vraiment le spécialiste de la production et du bois. Et moi, qui suis arrivé plus dans une logique de développement, de commerce. Et donc cette complémentarité, cette ouverture vers des métiers aussi plus modernes, nous a sûrement aidé à être toujours présents depuis plus de 50 ans en Cévennes pour scier du bois du sud du Massif Central. Je suis impliqué dans l'interprofession. Donc l'interprofession, c'est le réseau des acteurs de toute la filière bois. Donc je suis impliqué depuis maintenant plus de 10 ans dans ce réseau d'acteurs qui permet de mettre en lien tous ceux qui interviennent dans la filière bois, à partir de la forêt jusqu'au transformateur, jusqu'à tous ceux qui mettent en œuvre aussi du bois, les organismes de formation et de recherche. Je préside effectivement l'interprofession Fibois Occitanie. Et depuis l'année dernière, j'ai été élu aussi président du réseau France Bois Région qui regroupe les 13 interprofessions nationales, donc qui permet de travailler à l'échelle nationale sur toutes les problématiques de la filière bois et des divers massifs forestiers français. Donc voilà, on est dans une logique durable, dans une gestion durable des forêts en France, hein, à travers notamment PEFC qui est une certification. On vend des bois certifiés, les forêts desquelles ils sont issus sont gérées durablement. Mais c'est vrai qu'on a aussi, dans certains massifs, des difficultés pour pouvoir accéder à la ressource, parce qu'avant, on y allait avec des mulets. Quand mon grand-père a créé l'entreprise, on y allait avec des petits matériels. Maintenant, on est à l'époque de l'industrialisation, donc on y va avec des gros engins et on n'a plus forcément parfois les chemins ou les accès nécessaires à l'exploitation, à la récolte de ces bois qui ont été plantés par nos grands-parents ou par nos ancêtres, puisque la forêt, c'est une histoire sur plusieurs générations. On va planter un arbre et on va récolter le fruit deux générations après. Donc c'est une histoire de longue haleine et c'est vrai que sur les 50 dernières années, les choses ont bien changé et il faut que la forêt et les industriels aussi, les industriels doivent s'adapter et notamment produire des produits différents et les commercialiser de façon différente. Le groupe UFV est quand même un leader de la transformation du bois dans le sud de la France et à ce titre-là, on participe à cette dynamique.
On savait qu'il nous fallait de la place parce que sur le site de la scierie où on va aller tout à l'heure, c'est tout petit, mais on pensait trouver des locataires pour utiliser l'espace.
Ah, évidemment, et vous y arrivez.
Nous utilisons tout l'espace avec nos outils, la raboterie, le séchage, le clouage de maison et le stockage et les expéditions dans toute la France. Voilà, on fait même des tables de pique-nique. On commence à faire des meubles en kit pour l'extérieur, des abris de jardin.
Pour ce qui nous concerne au niveau de la filière bois, l'Occitanie, c'est deux massifs, surtout deux massifs forestiers, le sud massif central et le massif des Pyrénées. Finalement, des massifs qui sont assez proches en termes d'essence. On va dire qu'il y a peut-être un peu plus de feuillus dans les Pyrénées et un peu plus de résineux en massif central. Alors, on a beaucoup de Douglas dans le sud du massif central. Douglas, c'est une essence assez récente en France qui avait été plantée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'économie forestière, c'est de travailler sur plusieurs générations alors qu'on est aujourd'hui sur Internet. Quand on a cliqué, on doit être livré livrer 24 heures après. Et c'est vrai qu'on a une filière qui fait le grand écart entre des rythmes très différents, le rythme économique et le rythme des arbres. Et donc le Douglas permet de couper quasiment en deux les temps d'accroissement des sapins ou des épicéas qu'on connaît de manière plus générale. On a tendance à voir le bois comme quelque chose d'artisanal ou de peu industriel ou moderne. Et en fait, on est capable de faire de l'innovation aussi dans la filière bois. Aujourd'hui, on fabrique des lamelles collées et on vend sur Internet, on vend sur toute la France. On peut cliquer sur le site et recevoir le bois, pas forcément 24 heures après, mais on peut recevoir le bois à son domicile ou dans son entreprise quelques jours après.
Merci à Christophe Glaise, directeur de l'Union forestière viganaise et de sudbois.fr. Ce portrait a été réalisé par Radio Ecclesia dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Comme un lundi, c'est fini, vous adorez ou vous détestez, dites-le nous en nous écrivant à radioabitses@gmail.com ou appelez-nous au 05 63 60 60 36 ou laissez-nous un message sur la boîte vocale au 05 63 77 61 75. Les messages seront diffusés en début d'émission la semaine prochaine dans les limites de notre charte et des règles du CSA, bien sûr. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir financièrement. Radio Albitzès est une association, vous pouvez y adhérer et nous proposer des émissions. Retrouvez cette émission comme un lundi en podcast sur notre site internet www.radioalbitzès.com. À ne pas rater sur nos ondes cette semaine, spéciale journée mondiale de la radio que nous déclinons sur 7 jours pour le coup. Dans le créneau Raconte-moi une histoire, demain mardi à 14h, retrouvez la rediffusion de notre émission autour de la conférence gesticulée de Sandrine Velasco intitulée « Le salariat associatif et les radios libres ». Elle sera rediffusée ce dimanche 17 février à 16h. Dans le créneau Échange Radio, vous entendrez la chronique douce amère de Grégoire Souchet lorsqu'il a quitté sa radio associative. La diffusion c'est demain mardi à 20h et rediffusion ce dimanche 17 février. À midi. Dans le créneau conférence, demain mardi à 22h, ce sera Piletta Remix, à la fois un spectacle et une invitation à découvrir la fabrication d'une fiction radiophonique, du théâtre à la radio, ou serait-ce l'inverse. Ce sera rediffusé ce dimanche 17 février à 20h. Dans le créneau à tout Tarn, ce vendredi 15 février à midi et 18h, nous mettrons le focus sur Radio Octopus, la web radio de Rabat Stens qui monte, cette à tout Tarn sera rediffusée ce dimanche 17 février à 8h du matin. Voilà pour quelques-uns des rendez-vous de cette semaine spéciale journée mondiale de la radio. Restez branchés sur le 95.4 et le 104.2 ou le www.radioalbiges.com. Merci à Paul et Arnaud pour la préparation de ce magazine. N'oubliez pas les thématiques des créneaux info de la semaine. Demain mardi, c'est Loïc Colombier qui vous attend pour son Max Sport. Mercredi, c'est le créneau Garde Arrêt la Terre avec un entretien récent avec Florial Romero autour de l'effondrement écologique et une des solutions selon lui, le municipalisme libertaire. Jeudi, toujours à midi et 18h, Clémentine vous présentera l'Ainubelos d'Abraki. Et enfin vendredi, ce sera au tour d'Atoutarn, le magazine en partenariat avec le conseil départemental et on y parlera, vous avez entendu tout à l'heure, de Radio Octopus. Bonne semaine sur Radio Albitzès. Bonne semaine sur Radio Albiges.